Cascodeur Podcast, épisode 302. Amour, gloire et OpenAI. Enregistré le 23 novembre 2023.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cascodeurs, l'épisode 302. Nous sommes en 2023, nous sommes en novembre, nous sommes le 24e jour de novembre. Ça y est, il fait un peu froid.
Ouais, commence à faire frisquer. Hein.
Ouais. Et donc, Guillaume, malgré le froid, nous a rejoint à traverser la forêt.
Bah, j'avais quelques déplacements, quelques conférences là, ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que ça fait un moment qu'on ne m'a pas entendu sur les Cascodeurs.
Ouais.
Mais me revoici. Et la première fois avec Katia.
Oui, du coup. Je suis là cette fois-ci aussi. Il n'y a plus de vacances scolaires. Il y a beaucoup de grèves, mais pas aujourd'hui. Donc, je suis c'est là ça. Aussi. Les grèves des cantines.
Ouais.
D'accord.
Et puis, comme il n'y a pas grève, Antonio en profite pour aller au château soleil. De Versailles, figurez-vous.
Oui.
Du coup, s'il vous dit que non, lui, il ne sort pas de Paris...
C'est pas vrai.
C'est faux.
Voilà, et puis Arnaud, il commence doucement mais sûrement le travail autour de d'Evox France. Plus voilà, du coup, il va sûrement faire le mixage de cet épisode, mais il ne prêtera pas sa voix. Voilà, bon bah ça c'était les news des Cascodeurs. Maintenant on va passer aux news Java. En commençant par les langages, enfin la Java, la JVM, le développement, etc. En commençant par les langages. Et puis, il y avait un petit article d'octobre de InfoQ sur ben justement les nouvelles d'octobre, septembre-octobre dans l'univers Java. Il y avait notamment autour de... Alors, ça y est, c'est JDK 21, c'est passé. Maintenant, c'est réalisé. Eclipse a fait la sortie du sien. Maintenant, on parle de JDK 22, prévu pour mars 2024. Voilà, donc il y avait un certain nombre d'informations dedans. Et moi, j'ai retenu la JEP 454 sur l'appel à la mémoire, les API natifs d'accès au code natif. Il va passer en target, c'est-à-dire que là, ces gens, on cible 2022 en version en gros solide de cette API. Vous vous rappelez, maintenant il y a un cycle de vie d'expérimentation, de validation des fonctionnalités, et puis après elle rentre dans le JDK en tant que tel. Donc là c'est vers la fin. Voilà. Spring Framework 6 j'ai écrit 6,1 mais 6.1 est sorti.
Il y a les Spring Spring Boot aussi, il a fait pas mal de releases, et Spring Session il a fait des nouvelles releases aussi toutes récentes qui sont pas forcément là dans le recap, mais bon, il release très très souvent, donc
On en parlera de Spring après, Boot dans les librairies après.
Oui.
Ouais. Et après le récap, là, on a mis celui d'octobre, mais il y en a eu deux autres depuis. Hein, donc, il y en a régulièrement les Java Roundup d'InfoQ, il y en a d'autres.
Et ouais, juste comme j'ai dit la dernière fois dans aussi. Ma participation du podcast, ça va trop vite. Ça va trop vite.
Tom 4, pour info, avec quelques CVE. Donc maintenant que vous êtes fait tronçonner vos serveurs, vous pouvez les désinstaller, mettre à jour Tom 4 et réinstaller le tout. Ça a goûté. Voilà, donc essayez d'avoir des politiques pour rester au courant des vulnérabilités qui sont dans les librairies que vous utilisez, soit par un éditeur, et puis si vous le faites à la main en usage communautaire pur, ben, trouver des moyens de récupérer ces infos.
Du coup, il n'y a pas que le CV à mettre à jour, il y a les CVE aussi à mettre à jour, c'est ça que tu es en train de nous dire.
C'est ça. On en reparlera d'ailleurs de CVE dans cet épisode.
J'ai eu peur que tu me dises on reparlera de CV.
Non. sinon, c'est toi, Guillaume.
Ouais, j'ai vu qu'il y a Douglas. Un petit truc, mais je ne sais pas trop
qu'importance
pense ça a. Mais Douglas Crockford, donc, qui est le papa de JSON, là, il a sorti un nouveau langage. Alors, je n'en ai pas entendu beaucoup parler, mais voilà, un nouveau langage qui s'appelle MISTY, M-I-S-T-Y. Qui fait quand même pas mal penser à du JavaScript quand même, hein. Et le truc que je trouvais quand même assez marrant là, c'est que il utilise les caractères Unicode. Donc genre au lieu d'utiliser les doubles quotes, tu peux utiliser des chevrons pour, comme guillemets et tout, il y a des trucs un peu bizarres. Donc je me demande, tu sais, comment tu vas les taper sur ton clavier cela?
Ouais, c'est
sympa
ça.
Ou alors
je sais et pas d'ailleurs, comment il va faire. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des problèmes de mots de passe entre clavier anglais, clavier français, où vous voulez taper un guillemet, mais c'est pas le bon guillemet qui est tapé, ouais. Et là, t'es là, tu peux plus rentrer dans le système.
Ouais, bon, enfin, même ne serait-ce que QWERTY, AZERTY.
Moi, j'ai arrêté le clavier français.
Non, mais des fois, t'as pas le choix, t'as le clavier, tu vas pas changer le clavier des gens, tu vois.
Ouais, bah, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'aime bien le télétravail et dans mon clavier chez moi et non j'ai pas eu ce problème personnellement.
Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser, enfin vous allez le voir à l'écran.
Ah oui.
Mais
il a deux énormes mains robotiques. En fait, c'est deux morceaux de clavier.
Voilà, deux morceaux de clavier, on verra, j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. J'ai pas encore assez passé de temps dessus, mais les claviers ortho, comment on appelle ça, ortho linéaire là, et en deux morceaux ergonomiques et tout, c'est ça, parce qu'en fait on a au moins deux trois ans l'idée de faire une interview spéciale clavier.
Ouais, notamment
Les claviers alternatifs, les layouts différents. Donc là on parlait AZERTY, QWERTY. Mais voilà, donc, du coup je m'étais dit, l'interview, je veux bien qu'on la fasse quand j'aurai un clavier comme ça, et là je l'ai, et ben, j'ai du mal à m'y habituer.
Et du coup c'est pas QWERTY là?
Ouais, non, c'est quand même un AZERTY, hein, je sais pas si vous voyez sur l'image,
ouais.
Pour ceux qui sont en ligne.
Ouais. C'est-à-dire les deux auditeurs qui sont aussi dans le podcast.
C'est ça, Emmanuel et Katia. Mais par contre, après, tu peux complètement reconfigurer ton clavier, toutes les touches, tu peux faire des couches de shortcut et tout ça. Donc, si je veux, je peux le remettre en QWERTY, il n'y a pas de souci.
Et c'était quoi la motivation pour ce clavier, pour toi, à part l'interview de Cascodeur?
Bah, en plus, c'était, tu vois, il y a la lumière et tout, ça fait classe, mais c'est vrai qu'on le voit pas en général quand je suis en ligne. Non, c'était plutôt pour, en fait, tu sais, nous, les informaticiens, on a tendance à avoir des problèmes des canaux carpiens, etc. Et ces claviers-là donc te permettent d'avoir une position un peu plus ergonomique. Et là, on peut aussi mettre, un angle, si tu veux, le pencher pour que ce soit plus dans l'alignement de tes poignets de façon naturelle. Là, pour l'instant,
je vais pencher latéral, pas pencher de l'arrière classique du clavier.
Ouais. Alors, tu peux aussi même d'ailleurs choisir un peu avant-arrière, mais donc ils appellent ça le tenting là, en anglais, le mettre un petit peu comme ça en pyramide, on va dire.
Okay.
Et tu peux avoir ta souris au milieu, etc. Donc
pour ceux qui ont été chez le kiné, c'est la boule avec la plaque autour. Il faut rester debout le plus longtemps possible avant de tomber.
Et du coup, tu te sens mieux là maintenant ou c'est juste une question de temps?
J'ai pas encore assez utilisé, hein, parce que je tape à deux à l'heure avec ce clavier là, et du coup à chaque fois, je reprends mon bon vieux clavier Mac classique.
Ouais.
Faut que je me force genre à le mettre ailleurs mon clavier habituel, sinon je vais pas arriver à apprendre à maîtriser ça.
Voilà. Sinon,
donc oui, on a.
Ouais, et donc oui, je finis quand même sur le masse, petit. Tu peux utiliser les trucs Unicode aussi.
Ouais. Et donc l'autre aspect intéressant du langage, c'est le fait qu'il y ait le support de base dans le langage de la programmation concurrente avec le modèle des acteurs, les actors.
Ouais.
Donc voilà. Ça, c'est les deux trucs principaux que j'avais retenus de ce petit langage. Mais donc j'avais vu passer ça sur Hacker News, je crois. Et après, j'ai jamais entendu quiconque en reparler. Donc je sais pas. Peut-être juste un petit.
Ouais, c'est ça, parce que moi, quand j'ai fait un Google du nom. Là, à part la page assez non didactique, on va dire, de la définition du langage, j'ai rien trouvé.
Yes.
Bref, donc ça, c'est pour les férus de langage. Sinon, alors un peu plus populaire, on va parler de WASM, avec notamment le WASM GC, Garbage Collector, qui arrive dans Chrome via V8.
Ouais.
Et du coup, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc WASM, ça permet, c'est un langage intermédiaire, c'est un peu comme du bytecode, mais de plus bas niveau. Et du coup, on peut compilé en WASM un certain nombre de langages. Donc, c'est assez naturel pour les langages qui n'ont pas de gestion de mémoire automatique.
Donc, pour par ceux qui avaient la
C++, voilà, C, Rust, etc. Et pour ceux qui ont la gestion de mémoire automatique de type Go, Java, bon, c'était moins simple parce que là, en gros, les ports, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait en gros il portait la JVM elle-même et du coup la JVM interprétait, exécutait l'ensemble. Et notamment, le garbage collector était porté, donc il était en gros faisait partie de l'objet que vous alliez compiler en WASM.
Et du coup, au final, au lieu d'avoir un petit WASM tout petit, ben vous aviez un gros WASM qui contenait une partie de
la JVM.
Ou du JDK, ou de la JVM, ou du Garbage Collector, etc. quoi.
C'est ça. Et donc maintenant, on peut compiler le code Java dans des primitives WASM, donc ils ont des types, hein, les nombres, les chaînes de caractères, etc. Et du coup, avec des petites différences sémantiques potentielles, donc ça c'est toujours la difficulté quand on fait des portages de langage d'une plateforme à une autre. Mais connaissant ces primitives, WASM Garbage Collector va pouvoir gérer la gestion mémoire de ces trucs-là. Et quand on regarde une JVM, par exemple une machine virtuelle, notamment celle de Java, bah, y a un fameux Just-in-Time Compiler où on peut faire le Ahead-of-Time Compilation, mais à chaque fois, du coup, la compilation, elle se fait sur l'architecture cible, que ça soit Intel, quel processeur spécifique, ARM, etc., RISC-V, etc. Du coup, la JVM avait la capacité à, en gros, générer le bytecode pour toutes ces plateformes. Donc là, avec WASM, si on utilise WASM en tant que backend, c'est WASM lui-même qui va gérer cette portabilité ou ces targets différents. Et donc WASM GC, ce qu'on disait, il définit des objets WASM, donc en gros c'est des structs et des arrays avec des structs et des tableaux avec des champs dans lesquels on peut voilà créer des instances, on peut lire écrire dans les champs, caster dans d'autres types. Et ces objets sont voilà managés par le garbage collector lui-même. Donc on a, je vais peut-être pas appeler ça un modèle objet, mais ce concept-là n'existait pas du tout dans WASM. Il est rajouté, et ce qui fait que WASM GC peut travailler dessus, puisque le garbage collecting, il n'a de sens que quand il y a des relations entre les objets et qui est propriétaire de tel objet. Voilà. Après, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux approches. Donc, tu en parlais, Guillaume, il y a un énorme gain mémoire, ou en tout cas de la taille de ce qui est compilé, puisque le garbage collector est déjà dans WASM, donc on n'a pas toute cette partie-là qui est là. Et y compris malloc, d'ailleurs. C'est-à-dire que malloc, c'est pas si petit que ça. Bon, après, il jouait à mon binaire.
Ouais, c'est quelques cas, oui.
Mais
c'est pas non plus énorme.
Ouais, c'est ça. Et en mode... Ah oui, et en mode où le garbage collector est implémenté par exemple par Java, ben en fait, évidemment, Java connaît les liens entre les objets, mais quand on faisait des liens avec des objets WASM, donc externes à Java, ou inversement, en fait, on n'avait pas une connexion
bidirectionnelle,
ce qui fait que le garbage collector était bloqué des fois en disant, ben, y a toute cette grappe, et ça, je sais pas ce qui est réussi, enfin, ce qui est vidable et pas vidable. Voilà. Donc là, c'est plus le problème dans le cas de WASM. Et puis, il y a des WASM en lui-même. Le garbage collector a plus de capacité qu'un programme WASM. Notamment dans WASM, la sandbox vous empêche d'inspecter la stack et du coup d'éliminer les objets plus efficacement avant qu'ils viennent dans la heap et après doivent être garbage collectés. Pour l'instant, il n'y a pas d'API pour ça, donc le garbage collector WASM a un petit avantage par rapport aux autres, mais on pourrait envisager des API qui s'ouvrent là-dessus. Après, quand on a un seul GC, notamment quand on mélange les, les langages, et ben du coup la pression mémoire peut être plus ajustée. On sait que bah tiens là je consomme effectivement 200 et j'ai pas été obligé de pré-réserver 200 mégas en Java plus 150 mégas en Wasm en lui-même pour être sûr de pas faire de out of memory exception. Donc c'est un peu plus simple de gérer ça.
Puis j'imagine que, enfin, même si c'est pas forcément ce qui est nécessairement recommandé d'avoir plusieurs langages, mais j'imagine plusieurs langages garbage collecté avec le garbage collector de Wasm devraient mieux interopérer ensemble. Donc en général, c'est mieux de ne faire qu'un seul langage, j'imagine, mais du coup,
c'est ça. Ça c'est les liens de référence dont je parlais. Ouais.
Oui, exactement.
Et le struct aussi, je pense que le struct, enfin, le fait que la structure est plus explicite, va permettre d'avoir des interopérabilités un peu plus simples. Ouais.
Mais c'est amusant parce que ça, je m'attendais pas, enfin, naïvement, parce que j'avais pas non plus réfléchi beaucoup, mais je m'attendais pas à ce que une spec de GC pour Wasm allait rajouter, tu vois, ce genre de structure de plus haut niveau de structure d'objet, tu vois, au lieu des types de base et des tableaux de ça.
Ouais. Ah bah moi j'ai pas compris aussi, l'article ou que l'article.
Non mais si c'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est amusant de voir que c'est par l'intermédiaire du GC qu'on va enfin avoir des primitives plus évoluées pour les langages, parce que sinon, je veux dire, tous les langages qui ciblaient Wasm, que ce soit des langages, j'allais dire natifs, c'est-à-dire dans le sens comment il s'appelle déjà, genre Grain, genre il y en a un qui ressemble à un ActionScript, j'ai oublié. Donc des langages qui targetaient directement Wasm devaient eux-mêmes réinventer ces propres structures là pour les mapper sur la linear memory de Wasm. Ouais. Et là du coup j'imagine que tous ces langages là, y compris les langages non natif, donc je sais pas, Rust, Go, Java, etc., vont tous pouvoir effectivement travailler sur le même pied d'égalité avec les mêmes structures sous-jacentes, quoi. C'est, voilà, je trouve ça rigolo que ce soit venu par le GC, ces structures-là, quoi. Et non pas, tu vois, parce qu'il y a d'autres specs qui arrivent, là, les specs de components, de choses comme ça qui arrivent dans WebAssembly, et je me serais attendu à ça vienne plus de ces specs-là que du GC. Voilà.
Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne transition parce que quand tu fais du coup un port, un portage, mettons de Java, bah avant tu dis bon, je porte toute la JVM, faut que je compile toute la JVM, ouais. Au moins quelque part c'est déjà écrit, donc c'est entre guillemets un peu plus simple. Là, c'est pas pareil parce qu'il va falloir modifier la partie de en gros de la compilation qui justement va pointer vers les types de type Wasm et du coup enlever là où il y avait les interactions. En fait tout ça n'est pas si séparé que ça en vrai. Le garbage collector a beaucoup d'impact les choses sont utilisées, y compris dans les optimisations de compilation qu'on va vouloir ou pas vouloir faire. Ce qu'ils expliquaient, c'est que du coup il va y avoir de plus en plus d'efforts faits au niveau de Wasm et du garbage collector et de la compilation de dernier niveau, celle qui va aller optimiser telle registrie et tel machin, et que du coup les langages vont pouvoir se focaliser sur les optimisations de premier niveau. En Java par exemple, il y a des pattern recognition d'un certain nombre de bouts de langage où on dit quand on voit cette structure là en fait on sait qu'on peut l'optimiser en tel ça, un ensemble d'opérations en tant que tel. Donc ça va rester au niveau des langages, et après il y aura un deuxième qui existe déjà dans la JVM, mais une deuxième passe plus proche de la machine et qui sera du coup fait par la Wasm. Voilà, intéressant cet article, franchement,
Il est assez long à lire, mais d'ailleurs, t'as rajouté plein de notes. Donc
vous pouvez dit ce qu'on avait noté.
Et il y a aussi, il arrive dans Chrome, mais également dans Firefox. Alors, je sais plus si elles sont déjà sorties ou pas par rapport au moment où on avait mis l'article.
Probablement, vu qu'on est dans le temps long, nous. On est le podcast dans le temps long.
Ouais,
sinon, ça va trop vite, comme dirait quelqu'un.
Toujours en parlant de langage.
Je sais pas. Ouais, vas-y.
Et toujours donc en parlant de langage, écrire un langage de programmation, ça prend du temps et beaucoup de temps. Donc il y a un article d'un monsieur que je ne connaissais pas qui a écrit différents conseils justement sur si vous voulez vous faire un nouveau langage de programmation, moi je vous suggère de suivre ces conseils-là. Et avant d'aller de les lister. C'est vrai que moi, mon expérience, en tout cas avec Groovy, c'est que et aussi les autres langages que j'ai vus en parallèle de Groovy, il fallait quand même plusieurs années avant d'avoir quelque chose que je trouvais assez utilisable et assez stable pour que les gens, les sociétés, etc., puissent l'adopter. Assez rapidement, en quelques semaines, on peut faire un langage de programmation, mais pour qu'il soit vraiment utilisable, bah, il faut vraiment beaucoup de temps. Et donc plusieurs années, selon moi en tout cas. Dans les conseils qu'il donnait, donc il avait quand même plus un parti pris pour la compilation statique et le typage statique. Et en tout cas, il suggérait d'éviter le gradual typing, c'est-à-dire quand on essaie de faire un petit peu les deux, un peu typage dynamique, un petit peu statique, ce qu'on peut avoir finalement les inconvénients des deux et pas forcément les avantages. Il suggérait plutôt d'éviter ça, c'est-à-dire que à certains endroits on n'a pas le type, mais on en aurait eu besoin et vice versa. Il suggérait, alors ça c'est assez amusant parce que pour moi c'était un peu contre-intuitif, mais éviter le bootstrapping de son compilateur, c'est-à-dire d'avoir une version du langage N-1 qui compile la version N, enfin ou vice versa, N et N+1. Et en fait c'est vrai que dans la version N-1 fatalement on peut pas utiliser les nouveautés qu'on rajoute dans la version N+1, mais pour moi j'ai toujours trouvé ça un bon exercice de bootstrapper et d'écrire son compilateur avec son langage, parce que c'était une des meilleures manières de voir tous les problèmes qu'il peut y avoir et d'avoir vraiment un projet concret qui utilise de manière avancée le langage.
Ouais. Là, d'ailleurs c'est juste
bon. Mais c'est vrai que
vas-y. Il n'a pas écrit comme ça, mais la façon dont moi je l'ai ressenti, c'est qu'effectivement, lui, il dit plutôt écrivez une vraie application avec, vous allez avoir des super retours d'expérience.
Ouais.
Si vous commencez par le compilateur ça va être assez biaisé parce que c'est assez spécifique à un compilateur. Et puis surtout, le temps que vous trouviez les bugs et résolvez, en fait, vous mordez la queue pendant un certain temps. Donc je pense qu'il dit faites-le un peu après, une fois que vous êtes assez mature. C'est un peu l'impression que j'ai eu dans sa description. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a interloqué, en fait, cette proposition.
Ensuite, éviter d'écrire son propre générateur de code, son linker, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des plateformes comme LLVM, ou même, par exemple, on pourrait très bien faire un nouveau langage qui cible WebAssembly. Hein, et c'est vrai que tous ces toolchains-là arrivent avec tous ces outils intégrés. Et donc, plutôt que de réinventer, parce qu'en fait, on se dit, ah, je vais inventer un langage. Ah oui, mais attends, faut que j'invente aussi le linker. Ah, faut que j'invente le générateur de code. Faut que j'invente. Ben, en fait, si on peut se focaliser vraiment juste sur le feeling, le ressenti, les principes du langage, on ira plus vite, d'une part. Et d'autre part, on va pas s'inventer des problèmes qui vont délayer le jour où le langage deviendra utile. Donc peut-être plus ciblé. Alors peut-être que c'est aussi pour une première version. Après peut-être plus tard, ça fait sens de développer ce genre d'outil-là. Mais en tout cas, éviter de réinventer tout. Genre à la fin, on réinvente un système d'exploitation. Hein. Il suggérait aussi de pas trop tergiverser trop longtemps sur la syntaxe. Là c'est pareil,
c'est un message caché pour certains langages de programmation qui ont émergé de la JVM, tu penses?
Peut-être, mais c'est vrai que
je rigole.
Non,
je rigole pas en vrai.
En vrai, ouais, je vois.
Je rigole à moitié.
C'est vrai que là, lui avait l'air de regarder plus les S, comment on appelle ça, les S language, là, enfin les genre Lisp et tout ça. Mais ouais, mais je veux dire, si t'as fait un Lisp, ils se ressemblent tous, quoi. Donc moi je suis moyennement d'accord parce que justement c'est aussi avec la syntaxe qu'on peut se différencier et faire des constructions avancées, originales, même s'il y en a de moins en moins je trouve quand même aujourd'hui dans les langages de programmation. Donc c'est vrai qu'avoir une syntaxe, d'ailleurs attends, qu'est-ce que j'ai vu, il y avait un là je l'ai pas mis dans les show notes, mais j'ai vu passer un nouveau langage, je sais plus si c'est de Microsoft ou je sais plus qui, où finalement plutôt que d'inventer une nouvelle syntaxe complètement bizarroïde et donc pas familière pour les développeurs, c'était une syntaxe dérivée de TypeScript, JavaScript et TypeScript. Donc c'est vrai que ça sert pas forcément à grand chose d'inventer un truc super ésotérique et bizarre. Autant faire quelque chose en tout cas qui soit familier pour faciliter l'adoption d'un nouveau langage. La prise en charge multiplateforme, c'est un défi, donc c'est vrai. Après, si on se base sur des toolchains, hein, LLVM et autres, bah, ça l'est quand même beaucoup moins. Donc, ça revient au conseil numéro 3 qu'il avait donné. Les livres sur les compilateurs ne valent pas l'argent que vous dépenserez dessus. Donc, il pense par exemple au Dragon Book, etc. Par contre, il mentionnait, je crois, le livre de... D'ailleurs, c'est un collègue de chez Google qui travaille sur Dart, Bob Nistrom, qui avait fait un super livre sur comment c'est crafter des interpréteurs, des langages interpréteurs, qui est un super bouquin. Donc c'est vrai que les livres sur la théorie de la compilation des langages, souvent c'est sur les techniques et les algorithmes pour les implémenter, plus que comment bien implémenter un langage au final. Donc bon, c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'on maîtrisera à fond ces langages-là qu'on aura.
Ouais, enfin, ce qu'il disait notamment, c'est
qu'on peut utiliser Antlr, on peut utiliser des choses comme ça de plus haut niveau qui font le job.
Ce qu'il disait, c'est qu'il passait beaucoup de temps sur les parseurs et qu'en fait, dans un langage, son succès, ouais, ça va pas être sur le fait que tu utilises
ça
un parseur mieux.
Différenciant. Ouais. Faire grandir et évoluer un langage de programmation est difficile. Je sais plus ce qu'il disait là-dessus. En tout cas, c'est vrai que...
donc moi, je crois que c'était le marketing, en fait. C'était son accent sur la popularité, je crois.
Ouais, peut-être. Parce que moi, je le vois plus sur le terme de... Enfin, sur le plan de... c'est-à-dire, une fois que tu as sorti une V1, bah, tu peux pas tout casser pour la V2, re-tout casser pour la V3, etc. Ouais.
Je crois qu'il a pas ce problème-là encore avec son langage.
Ouais, il a pas ce problème-là.
T'as cette expérience, mais...
Ouais. Moi, j'ai cette expérience-là. Et en fin de compte, ce qu'il faut voir, dont je parle de temps en temps, c'est le côté... explosion combinatorielle, non, comment on dit, combinatoire, merci, des nouvelles fonctionnalités d'un langage, c'est-à-dire quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, bah, il va falloir penser que ça peut interagir avec les 199 autres qu'on avait déjà rajoutées, et à chaque fois, bah, on va multiplier par 200, par 201, 202, toutes les interactions possibles entre toutes les features, et on pense pas forcément à tous les cas de figure, et du coup, on va avoir des fois des trucs un peu bizarres qu'on a dans les langages, ça vient aussi justement de ça, c'est-à-dire on a rajouté telle autre fonctionnalité, mais ça se marie pas forcément parfaitement bien avec toutes les fonctionnalités qu'on avait avant.
Ouais.
Donc ouais, meilleure suite de tests, c'est une application réelle, donc là ça rejoint quand même le point sur le bootstrapping aussi du compilateur.
Après, Guillaume, ce que tu viens de dire, ouais, c'est vrai aussi pour n'importe quelle application, en fait, et n'importe c'est quel vrai truc, des tu configurations, des machins, parfois on rajoute sans aller au langage de programmation, en fait, dans un framework ou un produit, des configurations de je sais pas quoi, qui d'un coup, mélangé avec d'autres, on n'a pas vu forcément l'impact qu'ils pouvaient avoir derrière et que peut-être ça marche pas ou que ça fait des trucs trop bizarres et ça c'est vrai je pense pour toutes les échelles presque du langage jusqu'aux applications donc et en général tout ce qu'on lit ici de ce qu'on lit ici de pardon je t'ai coupé les langages de programmation c'est vrai même pour des applications en fait l'effet carrément, de faire comme les faire évoluer la suite des tests de pas trop complexifier certaines choses en fait tout est finalement c'est du bon sens qui a l'air c'est du bon sens qu'on oublie
qu'on oublie à chaque fois en plus
oui et puis ce qui est marrant aussi c'est tout ce qu'on dit là par exemple des reproches qu'on a fait Java pendant longtemps que donc il était pas assez moderne etc mais en fait après il s'est rattrapé aussi il y a d'autres langages qui ont émergé à une époque justement parce qu'il manquait tout ça etc mais on voit bien qu'il y avait des raisons aussi derrière de tout ça en fait.
Ouais, tout à fait.
Pardon, je t'ai coupé sur
un des points. Ah non, mais je veux dire, c'est le principe du podcast, hein, c'est une discussion, donc au contraire, n'hésite pas. Puis surtout que je peux dire des conneries aussi, donc... et dernier conseil, c'était quoi ? Ne privilégiez pas les performances sur les fonctionnalités. Donc certains qui se focalisent peut-être plus sur la performance et en soi, vaut mieux peut-être un langage qui est capable de faire plus de choses que d'essayer d'optimiser les quelques pouillèmes
Encore une fois, une vérité sur les applications, genre sur make it work, make it fast, non? Après, voilà, en tout cas, tu vas venir performer ou tu vas t'occuper plus de, ok, je vais faire une fonctionnalité. Est-ce que la fonctionnalité, elle est bien? Est-ce que ça marche? Et après, on va l'optimiser. Donc, éviter le premature optimization. Non, mais c'est très intéressant.
Exactement. Ouais.
Je ne ferai pas moi-même un langage de programmation, mais...
Arrête, moi j'ai envie d'en refaire un.
Je me tente. Voilà. Juste, on a passé pas mal de temps en vrai, donc on va faire un peu plus court sur chaque news.
D'accord.
Parce qu'en fait, on a OpenAI là, qui on va pouvoir discuter pendant 25 minutes potentiellement. Donc je pense qu'on est en termes d'équilibre.
Ok, ça va.
Ok.
Pourquoi il s'est passé quoi?
Bah, étant Katia GPT, tu dois
savoir. Ah, on va parler après, d'accord, d'accord.
Parler de toi.
On va parler de toi.
Alors, on va passer aux librairies en bon français. Et la première, donc, c'est que depuis le temps où on avait collecté la news, il y en a une nouvelle, c'est que ça y est, Spring Boot 3.2 est sorti. Rapidement, il y a du cache réactif, ce qu'ils appellent les Scheduled Abstraction, support en tout cas en partie sur le Virtual Thread, le support de Crack qui permet de snapshotter sa VM et du coup de démarrer un peu plus rapidement les fois d'après au niveau du démarrage, un support de Apache Pulsar, les améliorations autour des clients REST et JDBC. Le SSL, les certificats SSL qui sont rechargeables à chaud. Et d'ailleurs, il y a on va pas aller dans le détail du coup, mais il y a un article qui explique comment mettre ça en place avec notamment la propriété reload on update égale vrai. Et donc, ça écoute les changements du fichier, donc des certificats, et puis ça recharge à la volée. Encore de support autour de GraalVM, Java 21 qui est là évidemment parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, l'observabilité et puis d'autres petites choses. Donc n'hésitez pas à regarder les mises à jour et si ça vous intéresse de mettre à jour vos applications Spring Boot.
Ouais.
Alors Vertex, j'arrive pas à me tromper, 3.5 mais c'est 4.5 déjà.
Ouais.
Et surtout, j'ai fait une belle interview. T'as fait une
grosse. T'as expliqué Spring Boot. En fait, c'était Vertex 3.5 que t'expliquais là. 4.5.
Non.
Bah attends, c'est la même chose. Les threads virtuels, les certificats à chaud, tout ça.
Oui, parce que c'est marrant. Il y a un petit lien entre les deux, mais en vrai, c'est.
Là, ah, c'est ça, c'est aussi Spring Boot.
C'était un tweet de Josh Long qui résumait Spring Boot 3.2 là, que j'ai
fait. Ok, d'accord. Ben, en tout cas,
ouais, ça ressemble. Remarque,
du coup, c'est un peu ressemble. Confusing, là. Oui.
Ouais. Ensuite, il y a Vertex 4.5 qui est sorti. Et en fait, il y avait un truc que j'avais pas tout exactement compris. Donc, je me suis dit, je vais demander à mes collègues. Et du coup, je me dis, je vais faire une petite interview, un crowdcast de 15 minutes. Bon, trois quarts d'heure après, on a fini. Du coup, je me suis dit, on va parler de Vertex 4.5 dans une mini-interview qui sortira juste après cet épisode. Mais sachez que Vertex 4.5 est sorti. Voilà. Et puis, je crois que tu étais contente, Katia, mais il y a une intégration Quarkus et LangChain 4J.
Oui, ça, c'est des nouveaux trucs... Sur Quarkus, et puis on va pouvoir s'amuser et continuer à intégrer des nouvelles fonctionnalités dessus avec d'autres frameworks et d'autres outils existants dont je parlerai pas forcément, mais je travaille. Je ne citerai pas, mais moi ce que j'aime c'est que qu'on fasse des trucs sympas et ça c'est des trucs utiles et sympas et ça c'est vraiment c'était surtout Clément Scoffier du coup et Georges qui ont bossé beaucoup là-dessus des Quarkus et d'autres gens aussi
et puis
suivez il y a une vidéo qui a été sortie à propos de ça donc il y a une
Insight,
semaine ou deux du coup vous pouvez voir la démo.
Ouais, donc LangChain 4J, juste pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant, ça permet de faire ce qui s'appelle Retrieval Augmented Generation. Et donc, c'est tout un Tu me regardes bizarrement. Tu me corrigeras, Guillaume, après.
Ouais, ok, ok.
En tout cas, du coup, c'est une librairie. Donc, il y a une, historiquement une librairie en Python. Il y a une version ouais. Java, donc qui s'appelle LangChain4j, qui permet de coordonner un certain nombre de choses pour faire les appels LLM au modèle LLM les plus efficaces possibles pour votre pour avoir mm-hmm. la résolution que vous voulez, notamment augmenter le prompt, mettre un contexte devant, se rappeler des fenêtres de conversation, etc., etc. Mm. Et donc, l'intégration Quarkus avec LangChain4j, c'est justement proposer ça dans l'univers Quarkus, notamment de manière assez déclarative avec des annotations pour les systèmes prompt ou un certain nombre de choses autour de ça. Alors vas-y, j'ai dit une bêtise autour de...
Non, enfin, t'as bien expliqué après, mais c'est pas que pour Retrieval Augmented Generation où tu interagis avec des bases de données vectorielles. C'est un des cas d'utilisation de LangChain4j, mais tu peux faire plein de choses qui ne nécessitent pas forcément de suivre ce pattern-là. Mais après, t'as bien expliqué. Après, ce que je m'étais demandé...
Quand on parle de RAG, justement, Retrieval ouais. Augmented Generation, c'est vraiment avec l'appel aux bases de données vectorielles pour amener l'information contextuelle qui nous intéresse. Ok, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire pour trouver, en fait, pour essayer d'éviter finalement les hallucinations des modèles existants. Bah, en fait, on lui dit au LLM, alors attends, moi je vais te trouver des trucs qui correspondent à la requête dans ma base de données vectorielle en utilisant les vector embeddings. On met ça dans le contexte, dans le prompt. Et en fait, le LLM, il est censé regarder ce qu'on lui a donné comme information pour générer sa réponse. Donc, au lieu de l'inventer éventuellement, là, on lui dit « Ah, regarde, je t'ai donné exactement la documentation dont tu as besoin. Donne-moi ta réponse par rapport à ça. »
Ouais.
Mais ouais, cool, LangChain4j, j'adore ce projet.
Un des problèmes classiques, c'est si tu lui demandes « Est-ce que les éléphants pondent des œufs ?» Il va pouvoir te répondre, mmh. mais si tu dis « De quelle couleur est l'œuf dont pond l'éléphant ?» Il va te dire « C'est un œuf carré, bleu. »
ouais.
Et en fait, parce qu'il a assumé que tu avais raison et il a halluciné la réponse. En tout cas, dans le passé, il y avait des petits exemples comme ça. Allez, on va passer à l'infrastructure. Alors là, c'est l'infrastructure de chez l'infrastructure, puisqu'on va parler d'un constructeur d'ordinateur qui s'appelle Oxide. Voilà. Oxide, il y a des gens connus, hein, des ex-Googlers, ouais. notamment qui travaillaient sur les librairies genre Guava, etc., là, qui sont là-bas. Et alors, c'est un peu difficile de séparer le buzz de la réalité parce que c'est eux qui contrôlent leur blog. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'évaluations indépendantes et des choses comme ça. Mais de ce que j'ai compris, on dirait que c'est un ordinateur ou plutôt un rack entier qui a vraiment été construit avec l'idée d'efficience et de densité en tête, comme un cloud provider a la capacité d'investir dans des racks custom avec des designs custom. Je crois pas qu'ils aillent jusqu'au CPU, mais y compris jusqu'au CPU dans ces cas-là, et où par exemple ils vont optimiser le composant réseau qui va être partagé par le rack avec des connexions plus simplifiées ou des choses. J'imagine que c'est des choses comme ça qu'on peut faire quand on construit ses propres racks pour optimiser. Et là, Oxide, ils fournissent l'ordinateur dans un rack avec tout ça pré-optimisé, entre guillemets. Et leur idée, c'est de dire, le cloud provider, il fournit ces trucs extrêmement efficaces, mais c'est que à la location. On peut pas acheter, en gros, ces trucs-là. Et donc, eux, ils disent, vous allez pouvoir l'acheter de chez nous. Voilà.
Mais du coup, ils sont quand même chez eux. Non,
ils te le ship. Ils te l'envoient.
Avec le ship. Ah, ok.
Donc, c'est quand même à toi de le mettre quelque part dans une salle serveur et de brancher, en gros, le power et une grosse bande passante.
D'accord.
Parce qu'après, effectivement, les entrées-sorties, il n'y a pas de câble, en fait. Tu ne mets pas les câbles entre chaque ordinateur. Tout ça est déjà pré-câblé.
Ouais.
Et tu as un gros, une fibre optique, j'imagine, ou un gros Ethernet, plusieurs, qui te permettent de faire la sortie du rack, en fait.
D'accord.
Et donc, ils optimisent, ils se font de la co-optimisation entre le hardware, enfin, le matériel et le logiciel. Donc, leur couche d'hypervisor, etc., leur couche de réseau, elle a été vraiment optimisée entre le hardware et le software en même temps, de ce que j'ai compris. Mais là encore, pareil, un peu difficile de sortir le concret du général. Voilà. Bon, c'est pas à acheter dans son garage, je pense. Et voilà. Voilà, sinon, on va parler de Site Reliability Engineering Experience par certains de chez Google.
Ouais, ouais, ça fait 20 ans qu'ils ont sorti ce concept-là de Site Reliability Engineering. Et donc, ils ont partagé les leçons apprises pendant ces 20 ans de SRE. Donc il y en a pas mal. Alors le risque d'une mitigation doit être proportionné à la gravité de la panne, donc ce qui paraît un petit peu logique, je dirais, si c'est pas très grave.
C'est-à-dire que souvent on va faire des trucs héroïques en se disant c'est en panne, il faut absolument faire ça, et en fait ça va mettre le système encore plus en catastrophe. C'est l'expérience qu'ils ont eue.
Les mécanismes de récupération, ils doivent être entièrement testés avant une urgence. Donc, bon, c'est un peu comme tous les gens qui font des backups hein, pour leurs ordinateurs et qui les testent jamais. C'est un peu ça le principe.
Antonio.
Ah oui, récemment, oui. Véridique. Et c'est ça, je me suis dit, mais il a même pas Time Machine sur. Enfin bref. Canariser tous les changements, donc pour pouvoir les tester avec
un minimum. C'est quoi canariser des changements?
J'allais dire, non, bah, c'est moi j'ai canari, c'est ça.
Ouais, canary deployment, c'est-à-dire okay. On le teste juste
c'est
en
1%. C'est un verbe maintenant, canariser.
Oui, canariser, ouais. Alors en fait, juste pour la petite histoire, j'ai pris ces conseils, je les ai balancés à Bard qui me les a traduits. Après, j'ai retouché la traduction. D'accord. Donc, il y a peut-être des trucs. Je sais plus si c'est lui qui a dit ça ou si c'est moi qui ai mis canariser. Mais j'ai bien aimé canariser.
Écoute, il y a ChatGPT qui a traduit le CFP, le nouveau CFP de DevOps France, de l'anglais en français. Disons qu'il n'a pas le contexte où tu lui dis voilà les phrases traduites, bon t'as des tu vois bien la traduction du truc chinois tu vois qui a été auto traduit et là, c'est quoi ça.
Moi je me demande en fonction de par rapport au CFP DevOps maintenant que tu le mentionnes si on pourrait pas rajouter un peu d'intelligence artificielle pour les votes et voir l'écart entre les votes de talk d'un bot artificial intelligence et nous. Juste pour le fun. Mais ça pourrait être intéressant.
Tu l'entraînes sur les 5 ans d'avant.
Ouais. Sur tous les CFP d'avant.
Ça, c'est des bons trucs. Après, il faut lui donner...
Par rapport aux speakers, il faut lui donner pas mal d'informations. Mais peut être quelque chose à faire.
Bon, s'il ne met pas les casse-codeurs à 10, ça va chier.
Ensuite, il faut avoir un gros bouton rouge. Donc, quand le déploiement foire, être capable d'appuyer sur un gros bouton rouge pour arrêter l'hécatombe. Les tests unitaires ne suffisent pas. Et effectivement, il faut des tests d'intégration plus balèzes que juste des tests unitaires parce que effectivement, on va pas voir forcément d'un point de vue un peu plus macroscopique. Là, ils avaient mis en majuscule des canaux de communication, des canaux de secours aux canaux de communication, des sauvegardes pour les canaux de secours des canaux de communication. Parce qu'ils ont déjà dû avoir des soucis de pas arriver à appeler quelqu'un, pager.
Non, mais je crois savoir l'événement qui a fait écrire cette phrase, parce qu'il y a eu un moment. Ouais. Récemment, pas si vieux, il y a longtemps que ça, où Google OAuth était indisponible.
D'accord.
Et donc, tous les systèmes pour te loguer qui étaient intégrés avec ce SSO-là, tu ne pouvais plus te loguer. Donc, tu ne pouvais plus accéder au système de communication pour parler du problème. Ouais. Donc, on a eu ce problème-là. Heureusement, on avait un backup mode IRC à l'ancienne, tu vois, que tout le monde avait poussiéré son terme. Tu sais, comme dans Transformers où il ressort le vieux terminal. Bref. Et je crois que c'était ça qu'il disait. Il disait, tout le monde, vous devez se retrouver sur Hangout, mais bon, on pouvait pas être sur Hangout parce que justement, c'était, tu pouvais pas se loguer.
D'accord. Ensuite, des modes de dégradation intentionnelle des performances. Donc ça, j'imagine, quand d'un seul coup il y a beaucoup de trafic, des DDoS, des choses comme ça, etc. D'être capable de dire bon là on coupe tout un tas de features, de choses pour pouvoir fonctionner en mode dégradé, mais pouvoir continuer de fonctionner quand même. Donc, ouais. Essayer de bénéficier quand même à un maximum d'utilisateurs, même si c'est sur un noyau des fonctionnalités de base. Tester la résilience aux catastrophes. Bon, c'est explicite. Automatiser vos mitigations. Je sais plus ce qu'il disait là-dessus.
Au lieu d'avoir à faire les choses à la main, quand elles sont automatisées, on gagne beaucoup de temps et de sécurité.
Et on évite des erreurs supplémentaires qui pourraient générer encore d'autres catastrophes. Réduisez le temps entre les déploiements afin de diminuer la probabilité que le déploiement tourne mal. C'est-à-dire, vaut mieux faire des choses un petit peu incrémentales, plutôt qu'une release Big Bang qui risque de tout faire foirer. Ouais. Et ensuite, dernier conseil, une seule version matérielle globale est un point de défaillance unique.
T'as un bug. Je crois que l'exemple qu'ils avaient, c'était une carte réseau spécifique qui, dans une situation spécifique de charge, avait un bug. Ouais. Et du coup, tout le monde avait la même carte réseau sur tout le data center. Et ben, boum. C'est comme la... C'est comme Darwin, en fait, la diversité fait la force de la résilience. Ouais. Voilà. Alors,
Kubernetes.
On va parler de Carpenter. Donc, il y a déjà un autoscaler scaler les clusters Kubernetes qui existait déjà, mais il avait tendance à être un peu plus rigide, en tout cas, que la version Carpenter proposée là. Alors, le gros écueil de Carpenter, c'est que ça marche sur tous les Kubernetes pourvu que ça soit AWS, EKS, aujourd'hui. Oui. Parce que c'est AWS qui propose ça. Ils ont fait une version EKS avec, en théorie, des API pour la portabilité en dehors d'AWS, mais il n'y a pas eu de port de ce que j'ai compris. Mais en tout cas, ça permet d'ajouter ou de supprimer des nœuds au cluster Kubernetes en dynamique. Pour justement dire, tiens, je suis un peu à la limite, je vais rajouter un nœud, ou alors je suis en sous-consommation, je vais enlever des nœuds pour vraiment optimiser ces coûts. Et eux, ils passent en dessous de l'API Kubernetes pour aller plus vite en termes de création d'instances. Donc, ils utilisent le C2 directement, et du coup, ça leur fait gagner pas mal de temps par rapport à l'autoscaler qui était utilisé historiquement, en fait. Et puis, ils peuvent avoir des nœuds hétérogènes, donc des types de nœuds différents, à rajouter dans le scaling plutôt que forcer des nœuds de même type. Il parle de 30 secondes pour éteindre un nœud, ce qui est pas mal. Après, il faut vraiment des applis cloud native qui acceptent de se faire shooter un certain nombre de leurs pods dans la tête sans justement avoir de problème rendu utilisateur. Allez, on va passer au web avec un dinosaure.
Qu'est-ce qu'on a mis non, c'est pas moi qui l'ai mis, ça. Deno.
Moi qui l'ai mis pour faire plaisir au public web du podcast. Deno qui rajoute l'intégration avec Jupyter. Donc, il améliore beaucoup de
l'application
sur Visual Studio Code. Tout ce qui est la visualisation dynamique avec D3, la connexion avec Deno Key Value, c'est un truc que je connaissais pas. Donc il y a une espèce de base de données clé valeur de Deno et puis pas mal de fonctionnalités. Donc allez regarder cette intégration si vous utilisez Deno, ça a l'air vraiment sympa. Et puis après il y avait le nouveau site Angular Dev. Ça c'est toi qui l'as mis, Guillaume, peut-être, non?
Ouais, et juste avant Deno, pour ceux qui savent pas,
c'est le créateur de Node.js qui a fait Deno.
D'accord.
Je crois que c'est lui, en fait. Si je me trompe, je suis désolé pour les fans, mais je pense que c'était lui et c'est ça.
Tout à fait.
D'accord. Alors, et Angular.dev.
Donc il y a Angular.dev, le nouveau site d'Angular qui a été annoncé en même temps que la version 17 du framework. Avec plein de nouvelles docs, des nouveaux tutoriels, même aussi un petit bac à sable pour pouvoir tester interactivement dans le navigateur les nouvelles fonctionnalités.
Ouais, c'est aider l'apprentissage, c'était vraiment leur mot maître.
Pour vraiment faciliter, c'était le grand thème de cette version, de ces annonces. Ils ont même aussi customisé, rafraîchit un petit peu le logo. Mais c'est voilà, la version 17, c'est pas non plus une nouvelle version comme à l'époque de AngularJS à Angular, etc. Ça reste dans la continuité, donc c'est pas une version qui va tout casser. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans les fonctionnalités? Le control flow avec des espèces de directives if-else, des conditionnels, quoi. Après, on a mis quelques liens. Par exemple, il y a nos amis de Ninja Squad avec Cédric Exbraya qui couvre un petit peu plus en détail ça. Il y a des nouveautés au niveau de la CLI, la command line interface. Et puis, voilà, ouais, dans les changements.
Et juste, effectivement, le site n'était pas open source avant, donc maintenant il est open source.
Ah oui, c'est vrai, oui, il y a ça aussi. Ouais.
Et le logo, ils ont fait un peu comme. Je me souviens.
L'idée, c'est de pouvoir le customiser aussi, ouais, du coup.
Un peu comme Juggy. Je ne crois pas qu'il soit open source, mais tu peux le customiser, genre ouais. Si tu as un Jug, enfin l'équivalent d'un Jug Angular ou des choses comme ça, ouais. Tu peux l'adapter.
Ou même, j'imagine, pour tes propres, je sais pas, composants Angular ou je ne sais quoi, tu peux l'utiliser, rajouter tes couleurs, faire des choses comme ça.
Ouais.
Sympa, peut-être.
Allez, on va passer à données et intelligence artificielle.
Donc, est-ce qu'on parle de ça et ensuite, parce qu'il y a comme ensuite, il y a différents, il y a la partie outillage qui est un peu par en relation et la partie architecture où on va directement déjà sur l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec.
Ah, t'as raison, on va faire outillage, architecture, et après on va faire intelligence artificielle et loi société organisation
parce que ça va. Ok, ça va. Tout est interconnecté à la.
Outillage. Il y a quelqu'un qui s'amuse, qui a rien à faire pendant ses week-ends et donc a réécrit toute la stack de signature et de notarisation des applications pour macOS. Donc qui, il y a tout un. Une exécution côté client et après il y a évidemment un appel au serveur, aux API d'Apple pour finaliser le travail. Et du coup il a réécrit tout ça petit à petit, réimplémenté en Rust. Ce qu'il trouve bien, c'est qu'il commence à y avoir des gens parce que ça les intéresse de pouvoir notariser leurs applications sans être sur une machine Apple en tant que telle. Donc s'ils ont du CI/CD en Linux, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, CI/CD, ouais, c'est top, ça.
Voilà. Copilote. On peut pas y échapper, en fait. Quoi que tu fais, il y a de l'IA. Donc, Copilote, il y a eu pas mal de nouvelles, parce que GitHub Universe était il y a il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, au début du mois. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler en
j'ai
détail.
Je n'ai pas suivi, moi. Donc,
okay. Ouais. Alors, Copilote... Donc, Copilot Chat sera en disponibilité générale pour donc tout le monde du coup en décembre. Il s'appuie sur GPT-4 et permet de guider le développeur et de générer du code, détecter les erreurs et aider à les corriger et aussi d'expliquer le code. Tiens, ça fait quoi ce truc-là? Ou tel regex, ça fait quoi? Et Copilot Chat, il sera aussi intégré dans d'autres IDE parce que c'était une des grosses demandes des gens qui utilisaient Copilot, donc notamment dans JetBrains. Et aussi sur le site web de GitHub. Donc, on sait que sur GitHub, il y a moyen de faire des petites éditions à la marge de code. Donc là, ils intègrent du coup Copilot dedans. Et pareil pour l'application mobile.
L'application mobile, ça me surprend. J'ai jamais utilisé l'application mobile, moi.
J'ai toujours trouvé trop limité parce que tu peux voir les. En fait, c'est vraiment du view only quasi. Et je trouvais ça assez frustrant par rapport à mon usage en tout cas.
Du coup, oui, je comprends pas trop l'intérêt de le mettre dans l'appli mobile, mais bon.
Écoute, hein. C'est l'AI, ça se
on verra, on va l'utiliser et on dira. On va faire un test. Comme toi avec ton clavier ergonomique, on va faire des tests.
C'est ça.
Et puis après, oui. Après, Subhat, si tu veux continuer sur ça.
Comme tu veux, sinon tu continues. Mais...
Non, c'est bon. C'était okay. Si donc, on passait à autre chose ou pas.
Ah non, rapidement, du coup, il y a Copilot Entreprise qui s'appuiera sur les infos et le code de l'entreprise, donc pour spécialiser les réponses et notamment pouvoir aller trouver des liens entre les docs ou d'autres codes repo, mais de la boîte. Pareil, GitHub, Copilot dans Workspace, Copilot partout, comme on avait eu Google avec Bard partout. Et l'AI partout.
Exactement.
Donc là, c'est pareil. Ensuite, j'ai trouvé un petit guide sur Open Rewrite que j'ai trouvé bien. Open Rewrite, c'est un outil qui permet de décrire des règles, des recettes pour faire des migrations d'une version à l'autre, d'un logiciel à l'autre, un autre, etc., notamment en Java. Donc, ça permet de refactorer le code via des règles, mettre à jour des dépendances, enlever des API dépréciées, migrer d'une bibliothèque à une autre, etc. Voilà, c'est un petit article sympa. Il explique comment Open Rewrite vient avec un écosystème de recettes et que vous pouvez écrire les vôtres par-dessus pour des codes spécifiques et qui s'intègre avec Maven ou Gradle dans le flow pour mettre à jour les choses. Et avec des exemples de migration. Voilà, donc c'est un petit article intéressant pour ceux qui ont trouvé, qui s'intéresseraient à un outil autour de ça. Allez, on va partir sur l'architecture maintenant. Alors, monolithe ou microservice ?
Oh, on a toujours pas décidé.
On devrait trouver un gagnant.
Macro-service.
C'est toujours. Ce qui est amusant, c'est par exemple la sortie du Spring Modulite, on dit.
Modulite,
ouais. Modulite.
Ah oui, je sais pas comment
on dit
ça.
Modulite, Modulite. Je sais pas comment le dire. C'est pas grave. Ouais. En tout cas, le fait de depuis la rentrée, en fait, on parle beaucoup de que les monolithes. Après, il y en a des endroits. Il y a Arnaud qui est pas là, mais il y a des endroits que les monolithes sont jamais partis, qui sont toujours été là et puis il y a les microservices qui sont arrivés, les monolithes sont restés et maintenant les monolithes reviennent et du coup ils sont contents, ceux qui sont pas partis en microservices. mais en fait oui, il y a
je vous l'avais bien dit.
Voilà, c'est genre on avait
attends 20
c'est...
ans dans l'industrie, tu retombes sur tes pieds.
Oui. Et du coup oui, c'est ça, il y a même ces trucs Spring module. Moi je le connaissais pas en fait ce module de Spring qui permet de créer des monolithes, des applis du coup, mais je suis pas plus optimisé sur certains points que peut-être
en tout cas,
la manière
des monolithes plus modulaires malgré tout quoi.
Voilà, monolithes voilà. Et du coup, il y a tout le débat. Il y a l'article, il est intéressant, parce qu'il met en lumière, encore une fois, ça reste, je reviens à chaque fois sur comme tout à l'heure, sur le bon sens des choses, en fait, que, en effet, si tu vas partir, si t'as pas des problèmes déjà avec ton appli, juste mettre des microservices pour les plaisirs, il n'y a pas trop d'intérêt, ou démarrer avec des choses très, très, granulaires, du coup, tu vas prendre ton code fonctionnel et tu vas le disséminer sur plein service et tu vas devoir gérer cette complexité, plus plein de choses. Genre, trouver les bons ratios entre les deux, c'est, en effet, c'est beaucoup de travail et beaucoup de c'est l'expérience et le fait de pas aller trop vite, en fait, il y a tout, en fait, c'est les microservices, comme il dit, il y a des coûts, des avantages, des inconvénients, et si, en effet, si les inconvénients qui sont dans notre appli, si on n'a pas trop d'avantages, c'est pas la peine, en fait. Et voilà, mais on continue à en parler et ils reviennent en force, en fait. Je pense qu'on va avoir maintenant des gens qui vont partir sur n'utilisez pas des microservices.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans l'article, c'est qu'effectivement, donc déjà, il est nuancé. Qu'il explique qu'en fait c'est vraiment un spectrum, donc ça veut dire quoi micro, c'est à vous de définir, mais on part du monolithe et on bouge doucement vers plusieurs et on peut s'arrêter au milieu si c'est ok pour nous et vraiment l'équilibre. Il dit ce qui est vraiment bien dans les microservices, c'est que ça met en lumière la complexité qu'on a tendance à ne pas voir quand on fait un monolithe, en tout cas si on le fait pas modulaire, et c'est tellement facile quand on fait des trucs modulaires mais dans la même code base de prendre des raccourcis que voilà. Et du coup, il dit les microservices ont cet énorme avantage de montrer la complexité et que si on met l'automatisation des déploiements, etc., en même temps, on peut arriver à quelque chose qui nous permet de manager et d'aller au-delà de cette complexité parce qu'on la voit et on la gère. Si on met pas d'automation, on s'est tiré une balle dans le pied ou dans la tête même. Voilà. Et l'autre truc dont il parle, c'est si vous alignez pas votre architecture et votre modèle métier, en fait, chaque nouvelle fonctionnalité va vous demander de mettre à jour sept microservices et du coup, vous avez perdu l'avantage de l'agilité du microservice qui permet d'ajouter des fonctionnalités sans toucher toucher les autres. Voilà, il y a d'autres choses que l'article est un petit peu long, mais je trouvais ça assez bien si vous avez des débats dans votre équipe, retour au monolithe ou alors partir vers microservices et jusqu'où. C'est peut-être un bon, une bonne lecture en commun et après un petit échange, un débat avec avec les gens de la Croix-Rouge, pas loin au cas où.
Je suis d'accord avec ton analyse en fait et que c'est vraiment un truc intéressant à en parler et à redresser en continu. Ce n'est pas parce qu'on a décidé on va faire des microservices que d'un coup on doit faire des microservices de partout et ça. Et voilà, et c'est le de facto choice pour absolument tout et qu'il faut vraiment avoir le débat et en parler en continu et l'article est très très bien. Et puis du coup, on peut passer à la partie sécurité avec HTTP2.
Ouais, on en avait parlé l'épisode d'avant, mais genre un peu par-dessus la jambe là, Arnaud et moi, sur le problème de sécurité de HTTP2. Qui permettait d'avoir une attaque de déni de service. Et donc là, je pense que c'est Clément d'ailleurs qui a dû faire ce blog, mais qui fait un retour de... Il réexplique bien cette problème de sécurité, il explique l'impact, en l'occurrence sur Quarkus spécifiquement, et après comment on a remédié. Mais c'est les mêmes types de remédiation que j'ai vu dans d'autres stacks en fait. Et du coup, voilà, en fonction de l'implémentation, le risque est plus ou moins grand. Et le cœur du problème, c'est qu'on pouvait employer plein de requêtes en parallèle, normalement sont limitées à 100 maximum. Mais si on les fermait tout de suite côté client, on avait le droit d'en recréer plein, alors que côté serveur, le coût de compréhension que la requête est fermée était beaucoup plus lourd. Du coup, il y avait une attaque potentielle là-dessus. Et du coup, ce qui est fait, c'est que les... En fait, c'est assez... ce qu'il explique, Clément, c'est que c'est assez catastrophique si on a un thread par requête, parce que là, pour le coup, on consomme les threads et assez vite, on affame la machine. Avec des approches event loop non bloquantes, c'est un peu différent. On consomme plus, mais c'est beaucoup plus absorbable. Mais en tout cas, toutes les mitigations que j'ai vues, c'est... On regarde le nombre de streams qui sont fermés par seconde pour détecter les abus et quand on en a trop, bah on ferme de manière assez forte, enfin on ferme de manière forte la connexion et on éjecte les abuseurs. Voilà. Allez, il y a un petit jingle pour la saga intelligence artificielle.
C'est la petite musique de. Mais il faut choisir les plus belles de la vie ou. mais sinon, il y a la partie saga. Bon, d'abord, la saga, ça démarre avec ce qu'on a sauté tout à l'heure.
Ouais.
Les annonces.
Elon Musk,
notre grand ami de patron de X.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'il allait créer, il a annoncé son propre. Attends, j'ai perdu le. C'est plutôt mon point là.
C'est dans Data.
Dans Data, ouais. Bah, le fait qu'il a annoncé Grok.
Ouais. Donc son propre Large Language Model.
Voilà. Et puis avec une connectivité en temps réel avec. Bah, t'as écrit Twitter, mais c'est X.
Ah oui.
Ah.
Je m'y fais pas en fait. D'ailleurs, dans les radios, ils disent tout le temps X qui s'appelait avant Twitter parce que sinon personne ne comprendrait rien.
Et puis, voilà, et le fenêtre des contextes, 25K des caractères. Puis après,
le token,
ça.
Token d'ailleurs, hein, ça doit pas être des caractères. Mais...
Ouais. Et puis après, c'est le, voilà, garder le contexte des conversations. Et puis, après, il y a quelque chose qui est marrant. Que tu as mis du coup sur X, anciennement appelé Twitter, une personne commentait en disant que c'était le LLM anti-wok. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que cela veut dire exactement?
C'est juste qu'ils ont mis une personnalité un peu...
assez cynique, sarcastique, voilà, etc. Donc au lieu d'être...
Les réponses, elles vont te... Tu vois, non, mais si tu sais pas ça, t'as raté ta vie, mais bon, je vais te le dire quand même. Ouais, voilà, c'est un peu ce genre de truc.
Ok.
Voilà. Donc c'est pas ce que certains diraient c'est pas grok, politiquement correct. Voilà.
Et puis du coup ça va être dispo avec bah, avec X, appelé Twitter anciennement. Donc, les gens qui payent ça.
Bleu, anciennement appelé voilà. Bleu.
Grok bah, disponible pour tous ces utilisateurs qui payent.
Ouais. Ouais. Mmh. Et en commentaire, quand on échangeait les casques, on disait, alors, je sais pas sur, parce qu'il parlait d'un truc un plus, plus proche de la vérité, plus équilibré, grâce à la collectivité en temps réel avec le flux X. Et là, on disait, ah bon?
Ah,
bref.
Et puis, en parallèle, il y a OpenAI, du coup, qui a fait les annonces.
Ouais, ils ont fait un gros développeur day il n'y a pas longtemps. Hein.
Mmh. Et bon, je vous laisse.
Ils ont annoncé donc GPT-4 Turbo. Ils ont un peu des noms à la Apple. Avant, c'était 3, 3.5. Maintenant, c'est 4 Turbo. Hein, bref. Donc, c'est leur LLM le plus puissant. Donc, le plus cher, mais le plus puissant. Et après, on peut choisir les API qui nous vont bien. Il offre un contexte de 128 000 tokens avec des prix un peu réduits et des quotas plus élevés. 128 000 tokens, c'était la différence entre Claude et ChatGPT. À l'époque, c'est la différence qu'on expliquait. Et le token... Ça vous permet d'avoir un prompt, donc une demande plus grande en fait, et notamment passer plus d'informations si vous faites le fameux Retrieval Augmented Generation.
Ou justement de se passer de RAG, vu que tu peux tout mettre éventuellement dans le contexte.
Ouais, enfin, si tu as beaucoup de données, après tu as une limite.
Ouais, mais bah déjà 128K, c'est déjà pas mal quand même.
Okay.
Et Claude vient de sortir aussi la version 2.1 qui passe à 200K. Donc,
d'accord, c'est la guerre des K.
Ça n'arrête pas. Ouais, la guerre des K.
Ils ont pas mal travaillé sur des API pour que les gens construisent des choses, des outils d'IA augmentés, enfin, par-dessus leurs trucs. Donc, il y a l'Assistant API, une solution qui permet de créer des mini-assistants personnalisés et d'exposer via cette API. Et notamment, bah, l'intégrer ça dans des applications et notamment de pouvoir dire, bah, tiens, ça, c'est ce truc qui est optimisé pour toute mon information sur Python et mon application. Et paf, vous avez le truc qui va être, en gros, pré-formé, pré-trainé là-dessus. Voilà, une API pour DALL-E 3. Troisième, j'espère qu'il a le nombre de doigts qui s'est amélioré.
DALL-E est pas mal. DALL-E, en particulier pour la génération de texte, c'est celui qui est le meilleur là aujourd'hui, je pense. Hein.
Génération de texte à partir de l'image, c'est ça? Il décrit l'image?
Non, c'est-à-dire si tu lui dis, tiens, mets tel personnage avec une pancarte avec écrit Hibernate, c'est pour les dormeurs ou je sais pas quoi, bah, il va être capable d'écrire le texte, tu vois.
D'accord.
Il le fera jamais parce que c'est faux et c'est une intelligence artificielle derrière. Donc ouais. Ça marchera pas, mais d'autres choses. mais sinon, oui, en effet, hier j'ai eu un gros débat avec J'ai parlé avec, j'ai parlé de tous ces sujets avec des amis et notamment d'un ami qui utilise beaucoup ces API là aujourd'hui dans ses clients. Il travaille beaucoup dans des recherches, la recherche et il fait beaucoup des tests et tout. Et il m'a dit qu'il était assez très très impressionné. De ce que c'est GPT-4 faisait et DALL-E aussi, notamment sur le fait de donner une image, la décrire à un détail assez impressionnant et même du coup de prendre ensuite la description donnée et lui dire de générer une autre image derrière et que c'était hyper impressionnant. Et puis aussi sur la partie de génération de code, dans lesquels il se met à écrire du code en Python et puis à un moment donné on voit que il fait une erreur et il va dire ah tiens désolé je me suis trompé, du coup il le fixe, il continue tac tac tac, il le fixe et c'était pour compter un algorithme pour compter combien des points ou combien des ronds sont dans une image ou un truc comme ça en fait. Et du coup petit à petit il se trompe parce que peut-être il y a dans la librairie Python qu'il est en train d'utiliser le code Python il manque une fonction. Donc il va la recréer, etc. Il te fait l'algorithme et du coup il trouvait ça hyper impressionnant au point de dire dans 3 ans l'URSSAF se fera générer tout son système via le AI. Donc on partait vraiment très loin sur tout ça et voilà.
D'accord. Et OpenAI Il y a un article un peu détaillé qui explique cela, là, de Sphere. Bon, ils étaient un peu dans la version techno-optimiste du truc, mais ils disaient, ah, c'est super, ils protègent les droits d'auteur. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une protection juridique pour les clients d'OpenAI qui se feraient attaquer pour violation de droits d'auteur si une image générée par OpenAI était utilisée et attaquée dans ce cadre-là. Je crois qu'IBM a le même genre de choses-là pour Watson X, par exemple. Alors, on se rapproche du... On a buried the lead, comme on dit. Alors, on va passer à la loi société-organisation. Et on vous avait parlé que les... Non, vous n'avez pas parlé. Mais en tout cas, les acteurs d'Hollywood étaient en grève, et notamment autour de l'intelligence artificielle et des droits. Ils avaient l'impression qu'ils allaient se faire voler juste leur voix et leur talent, et hop, après reproduit par l'intelligence artificielle et qu'ils ne pourraient plus manger. Voilà, donc il y avait toute une grève qui bloque, qui paralyse tous les films et les séries à Hollywood. Enfin, quand tu dis Hollywood, c'est dans le cinéma américain.
Oui, d'abord, ça a été les scénaristes qui étaient en arrêt depuis mai. Et puis, les acteurs les ont rejoints en juillet. Mmh. Et du coup, il paraît qu'on se dit, ah bah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le secteur paralysé comme ça, ça a dû coûter 6 milliards de dollars, ce qui n'est pas... Il n'est pas peu, en fait, pour le business. Et ce qui a été assez impressionnant, c'est qu'ils avaient très peur surtout c'est l'accord par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'ils avaient très peur, justement aussi, quand ils allaient, déjà que les streaming, les sites de streaming les utilisent à perpétuité, sans être rémunérés, même en cas de décès. Et le fait de pouvoir créer des images ou des trucs, donc ils ont vraiment, sans savoir leur consentement ou se faire rémunérer pour ça en fait. Et donc, c'est le IA qui a bougé beaucoup. C'est le IA qui a beaucoup bougé sur cette grève là, et ils sont arrivés à vraiment un garde-fou contre ça, négociant le fait que dans ce cas là dans lesquels, même si c'est des choses générées par l'IA, bah ils vont se faire rémunérer quand même, et même quand ils seront décédés, etc., tous les droits pour les stars et ses descendants leurs images et leurs voix et tout ça. Donc ça a été un grand accord et qui a fait que la grève normalement aujourd'hui ou hier c'était fini, et puis ils avancent comme ça. Moi, je me demande par rapport aux développeurs, est-ce qu'on on va essayer de négocier des garde-fous par rapport
Alors
à
nous,
ça
on n'est pas on n'est pas syndiqué au même niveau que Hollywood, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, etc. Mmh. Donc, ça sera un combat différent. On pourrait arrêter de développer l'IA, mais ça pourrait être utile.
Après, il y a un autre article aussi, c'est la chute de WeWork, qui n'a rien à voir avec le IA, mais qu'on peut mentionner. Voilà.
Qui dépose le bilan, c'est ça?
Voilà, il a déposé le bilan. WeWork, qui a été le pionnier à un bureau partagé, un espace de coworking, qui a monté, et puis là, il est asphyxié par une dette de 3 milliards de dollars.
Je ne sais pas si c'est pionnier, parce que ça fait longtemps qu'il y avait... Il y avait des trucs anciennes générations, genre Regus, ces choses comme ça,
en tout cas, c'était apparemment, c'était vraiment un des les leaders mondiaux, et il y avait un statut des pionniers, pionniers dans le coworking. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Il y en avait 15 établissements sur Paris. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui domicilient aujourd'hui leur siège dans des espaces de coworking. Et du coup, en fait, il y a des concurrents maintenant aussi sur Paris, donc il y a pas mal de concurrence dans le secteur, mais ça a fait que malgré tout, ils y croient, parce qu'on voit quand même une demande de plus en plus forte, et la raison évoquée pour la chute de WeWork, c'est la très très mauvaise gestion et les très mauvaises décisions de leur lead qui avait l'air un peu loufoque en fait, un personnage en tout cas assez intéressant ou spécial pour les nommer comme ça, mais apparemment il avait fait des choix un peu pas très sages qui ont amené cette chute qui n'a rien à voir avec le modèle économique. Donc on verra, normalement malgré la mauvaise publicité, ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Et du coup, il y a quoi d'autre chose qu'on avait mis sur la société qui n'ont rien à voir avec le IA?
Mais par exemple, il y a X et les Français sur les réseaux sociaux.
Voilà, X apparemment on dit que les Français, c'est les utilisateurs les plus violents d'Europe. En tout cas, ceux qui se font plus supprimer leur contenu et pour propos violents au sein de la plateforme. Contre les Espagnols ou les Allemands, où ils sont par exemple à 7000, sur l'entour de 7000 messages, les Français sont à 16000. Après, peut-être qu'il y a plus d'utilisateurs. En Espagne, en tout cas, je sais que X, anciennement appelé Twitter, et bon, j'arrête. Il était vraiment très, très, très utilisé. Donc, ça m'étonne même. Je suis vraiment étonnée, d'un vue de compte que je suis sur espagnol, de ce truc. Mais, peut-être que le français.
Moi, je trouve
que
ça s'est institutionnalisé, là, quand tu vois les. Enfin, ce que les gens appellent les médias traditionnels, en fait, t'as quand même une boucle de rétroaction où ils se nourrissent de ça, ils fournissent dessus, ils récupèrent les news là, ils commentent les news qui se font le buzz sur X. Donc, en fait, il y a eu un moment, il y a médias traditionnels versus réseaux sociaux, et puis là, il y a vraiment une coévolution, moi, je trouve, qui est en train, en tout cas, en France, je connais pas les autres, mais
du coup, après, au soap opéra là, dont on va parler, de Sam Altman et OpenAI. En tout cas, si on voulait se tenir au courant qui se passait en temps réel, c'était Twitter. Ouais. Les journaux avaient des informations 6 heures plus tard, 10 heures plus tard, le lendemain.
10 heures plus tard, c'était passé 5 coups d'État encore.
Exactement.
Bah allez, on va en parler justement. On va sauter l'article sur les fondations autour du Green IT, parce que moi, je ne l'ai pas lu, donc je pense pas. Alors, bon, on vous a fait patienter 1h15 pour la saga qui s'est passée le week-end dernier. Donc, pour info, on a explicitement retardé l'épisode pour pouvoir traiter ça. Hein. C'est sûr qu'on aurait pu enregistrer le vendredi où c'est arrivé, mais on l'a décalé exprès sans savoir que ça allait arriver. Mais bon, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc OpenAI, c'est la... Alors, je vais dire société, mais entre guillemets, parce qu'on va voir que c'est un peu plus subtil que ça, qui fait notamment ChatGPT, enfin tout ce qui est GPT-4, etc. C'est OpenAI et se réveillait avec un modèle où il y avait de l'intelligence artificielle avec des modèles un peu similaires dans les labs de Google, Microsoft, etc. Mais ils avaient quand même assez peur de l'impact à cause des hallucinations, etc. OpenAI, il n'y avait pas de... a fait un choix de « on va mettre ça entre les mains des gens et expérimenter et améliorer vite ». Du coup, il y a eu cette explosion qu'on a vue depuis novembre 2022, là, où maintenant on parle de ChatGPT, ta grand-mère parle de ChatGPT. Donc, ouais. Donc, le CEO de ce truc-là, il s'appelle Sam Altman, cofondateur. Et puis, il arrive vendredi dans un meeting où il y a un des membres du conseil de surveillance d'OpenAI qui l'invite. Il dit, bon, bah, Sam, t'es viré parce que t'as pas été honnête avec nous, tu nous as caché des choses, on peut plus avoir confiance, donc tu n'es plus CEO, tu fais plus partie de OpenAI. Et puis, ils disent au chef du comité de surveillance, qui était le pote de Sam Altman, là, Greg, je sais plus quoi, eh ben, toi, tu peux plus être le patron du chef du comité de surveillance, tu peux rester à OpenAI ou etc. Mais donc, il décide de partir. Et donc, ça c'est annoncé genre vendredi à midi, heure de la Silicon Valley. Donc, ça surprend tout le monde parce que Sam Altman, c'est celui que ta grand-mère connaît aussi. Donc, il fait toutes les confs, il est méga populaire, il explique que l'AI, ça va être génial, oui, il y a des risques, mais ça va être génial, etc. Donc, c'est un peu le chouchou, la star du... C'est Elon Musk avant qu'il devienne tout chelou. Du coup, là, il y a la, ce que les gens essaient d'analyser, c'est qu'en fait, il y a toujours eu, dès le début, des tensions dans la boîte, là encore, entre guillemets, parce que OpenAI, c'est une association à but non lucratif. Et donc, le board, c'est pas un board de société avec des actions, etc. C'est un board d'une association. Et donc, les gens du board, ils sont responsables de la mission définie par l'association telle qu'elle est écrite en voyant en préfecture. Et la mission d'OpenAI, c'est faire une intelligence artificielle sûre qui bénéficie à toute l'humanité. Et ils ont commencé comme ça, ça se passait bien. Puis à un moment, il leur fallait du matos. Donc, ils se sont dit, bon, on va créer en fait une société qui est 100% qui est appartenue par la fondation. Et cette société, OpenAI, je ne sais pas quoi, va pouvoir avoir des partenariats industriels, notamment avec Microsoft, qui leur a donné l'équivalent de 10 milliards de ressources pour calculer tous les trucs, en échange d'un pourcentage de la boîte, enfin la partie lucrative d'OpenAI, mais qui est, là encore, contrôlée par le board non lucratif. Donc la tension entre la non lucrativité et la lucrativité, entre l'AI sûr versus on va le plus vite possible et on expérimente et on montre, voilà, il y a eu des tensions qui ont été jusqu'à de virer le CEO. Et ça, Sam Altman était le gars qui poussait beaucoup pour un virage business, en fait, de OpenAI, plutôt qu'un virage très recherche, en fait, initialement. Donc là, Satya Nadella, là, le CEO de Microsoft, il est surpris parce qu'on l'a pas mis au courant. Il est un peu embêté parce que il a misé toute sa stratégie intelligence artificielle sur un partenariat OpenAI. Donc, il est pas trop content. Donc là, tout de suite, certains employés d'OpenAI démissionnent parce qu'ils comprennent pas de ce qui arrive. Donc là, ça met la pression sur le board c'est-à-dire le comité de surveillance qui dit « Oulala, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Est-ce que tout va pas exploser, là ?» Donc, les gens commencent à partir. Le board se dit « Attends, on va négocier le retour du CEO. » Donc, dans les 24 heures, il négocie.
Il y a eu plusieurs CEO intérimaires.
Ouais, c'est ça. Alors, attends, parce que quand il est viré, du coup, la CTO devient CEO intérim. L'intérim, il se trouve, aura duré 2 jours. Donc, elle a été CEO pendant 2 jours. Le board négocie le retour, mais en fait, négocie d'un nouveau CEO en parallèle. Donc, il trouve le mec de Twitch pour devenir CEO. Sam Altman, il se dit, c'est pas grave, moi, j'ai des idées de start-up. Il commence à discuter avec des VC et des machins. Satya Nadella qui dit, ça fait chier, j'ai toute ma stratégie comme ça, il s'en mêle, il essaie d'organiser le truc. Il annonce que Sam Altman et Greg Brockman donc rejoignent Microsoft pour créer une division Advanced Intelligence Artificielle Avancée avec une nouvelle équipe de recherche dessous, que tous les gens d'OpenAI qui veulent partir sont les bienvenus. Donc là, c'est la grosse pression au niveau du board d'OpenAI. Ceux qui ont fait le coup d'État dans le board disent « Ah, en fait, c'est pas ça, on voulait pas tout détruire, c'est pas ça que je voulais faire, désolé. » Au final, là, on est lundi, je crois. Au final, le board finit par sauter. Enfin, dans le week-end, il y a eu de la pression des employés en disant « Il y avait 700 signatures sur 750 qui disaient « Si vous démissionnez pas, nous, on s'en va de OpenAI. » Donc, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un peu compliqué. Lundi matin, on se réveille. Sam Altman va chez Microsoft. Antonio, il est là. « Ouais, j'ai un super collègue. » On se réveille mardi ou lundi soir, je sais plus. Sam Altman dit « Bon, finalement, je vais redevenir CEO de OpenAI. » Le board saute en entier, sauf une personne.
Mais est-ce que tu crois que c'est par rapport à ce qu'avait dit Antonio que du coup il a préféré retourner à OpenAI ou pas?
Alors il y a deux hypothèses. Il y a Antonio qui l'a saoulé, donc en fait il a dit non, en fait j'y vais pas. Hypothèse à privilégier. Et la deuxième, c'est que on lui a dit du coup tu vas utiliser Microsoft Teams et il a fait ah.
Alors là c'est trop pour moi.
Voilà. Donc,
ouais, mais en tout cas, le board a sauté sauf une personne et lui, il est revenu et tout, et ça continue.
Alors lui,
mais
il est
y a
revenu
une
le CEO. Ouais. Tout mais va bien dans le meilleur des mondes, sauf que va quand même y avoir une enquête indépendante pour savoir pourquoi ils ont pris cette décision et qu'est-ce qui fait qu'ils ont voulu prendre cette décision. Donc, je pense que Sam Altman, par rapport à la mission non lucrative d'OpenAI, il est quand même pas mal borderline, donc il y aura peut-être des conversations là-dessus. Satya Nadella, Satya, oh, il a commencé son vendredi, c'était vraiment la grosse merde. Ensuite, lundi, il allait récupérer toute l'équipe pour pas très cher et se frotter les mains. Au final, il va se retrouver probablement avec un siège au comité de direction ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc, en fait, il a quand même, il y a eu cette crise-là qui a fait que OpenAI, on la voit aller de plus en plus vers l'univers business. Voilà. Mais bon, la saga n'est pas terminée.
Oui, c'est pas terminé. Et surtout que moi, ce que je vois est qu'en effet, Microsoft bien, il dit bon bah moi je suis pas du tout dans les stratégies non business. Moi, je suis dans la stratégie business et donc je suis prêt à accueillir tout le monde. Il y a pas de problème. Donc tout le monde veut y aller. Après, ok, finalement pas, mais on voit bien le pouvoir de Microsoft vis-à-vis d'OpenAI quand même. Et puis aussi le fait qu'il y ait les responsible AI, donc les groupes que normalement sont là pour surveiller qu'il n'y ait pas de biais, que la IA soit pas les destructeurs de l'humanité, dans toutes les contrôles que je sais pas en fait quand si toi t'as une entreprise privée, c'est pas le cas de France, ça je parlais de ça avec avec des amis, t'as un pays que t'as une entreprise privée qui fait de la bombe nucléaire et du coup tu décides malgré tout de faire la bombe nucléaire et au détriment de l'humanité, bah il y a un organisme externe qui va dire bah non tu peux pas là. Il n'y a pas d'organisme externe qui fait ça, parce que le gouvernement et tout, ça échappe à tout le monde. Mais en interne, même les responsables AI de Google, Microsoft et Meta ont été sautés. Genre, en mode, non, c'est genre, bon, les gars, soyons clairs et nets, là, on est en phase d'investissement. Là, on investit à mort. On va bien vous faire tous et toutes accro à ChatGPT et les autres concurrents pour que vous soyez bien dans ce business et que vous avez vraiment besoin de tout ça. Et après, on va les facturer tout ça, j'imagine, à un moment donné. Donc, on est vraiment dans le business as usual, mais avec un outil qui on maîtrise pas et que voilà. Ouais. Et qu'en plus, il y a tous les enjeux écologiques et géopolitiques derrière.
Ouais. Bon, Guillaume, je pense que tu vas te retirer de la conversation parce que je pense que ça ne doit pas être... entre ton employeur et toi, ça va être compliqué sinon.
Mais non, en fait, après, je ne sais pas, moi, j'ai dû te donner mon avis, pas en tant qu'employé derrière, je donne mon avis en tant que personne qui est là et qui regarde la planète et qui regarde tout ça. Et que se dit qu'est-ce qui se passe en fait, on va où?
Effectivement, il y avait un groupe éthique chez Google. On en avait parlé qu'en gros elle s'était fait virer parce que il y avait eu un conflit entre son management, ce qu'elle disait en public et Google. Du coup, elle avait été virée. Microsoft, je me rappelle plus la news, mais c'est pareil, ils ont désactivé leur groupe de Responsible AI. Et ce qu'on a appris, c'est que ce week-end, Meta avait déjà pas mal enlevé le nombre de gens dans l'équipe Responsible AI et maintenant ils les ont dispatchés dans les différents groupes d'intelligence artificielle au sein de Meta. Il n'y a plus de groupe explicite dont le job est l'intelligence artificielle responsable. Mais c'est marrant, j'espère que je vais pas le mettre dans la panale, mais si vous écoutez Antonio dans les Cascodeurs il y a quelques mois, il parlait, ouais, tout le monde parle de Responsible AI, et puis effectivement, au fur et à mesure de la vague OpenAI et de l'influence de ChatGPT, ce discours, il a été mis un petit peu de côté, on entend moins ça, en tout cas, des grands groupes.
C'est bien parce que ce que je vois est qu'en effet c'est un business énorme qui passe un changement, c'est un game changer quand même et puis du coup il y a aussi le cool washing en fait comme disait Lee le Il y a les fake, ben les, il y a le greenwashing aussi qui, que, ben du coup, le cool washing, c'est de rendre très très cool quelque chose dans lequel il y a quand même des parties qui sont pas si cool que ça. Donc on va mettre à disposition. Et moi, je suis pas du tout en mode il faut arrêter de faire. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est, ça peut nous aider et ça va nous aider sur plein de domaines pour plein de choses. Mais en effet, il y a certaines choses, c'est certains trucs que je vois, que je me dis, ça va privilégier vraiment qui, sur la longue, en fait, parce qu'en effet, je vois bien des cas d'usage très, très positifs et très intéressants pour l'humanité, sur le moyen, long terme. Mais ces choses-là de, allez, maintenant, la partie responsable, là, maintenant, on va vraiment parler business, quoi. Et du coup, c'est là où ça me fait un peu plus peur sur la longue. Et voilà, c'est juste avec tout ce qui se passe en plus dans la planète et les enjeux écologiques derrière aussi, quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais très intéressant à suivre et à voir ce qui se passe, en fait. Je sais pas, mais bon, Guillaume, il peut rien dire, hein, du coup.
Non, mais ce que tu vois dans l'explosion de OpenAI, là, bon, c'est qu'en vrai, fondamentalement, on sait pas trop les impacts, en tout cas, au sens AGI, enfin, c'est quoi déjà AGI?
Oui, l'intelligence artificielle généralisée.
Il y en a qui, parmi ceux qui travaillent dedans, il y en a qui sont plutôt dans la fibre techno-optimiste classique, et il y en a d'autres qui en ont vraiment peur, en fait. Et en vrai, on ne sait pas trop. C'est un peu comme le film Oppenheimer que j'ai pas vu, mais ce qui raconte le projet Manhattan où quand ils ont fait le premier essai, bon, ils disaient, bah, peut-être ça va vaporiser toute la surface de la Terre, mais bon, c'est quand même peu probable, mais il y avait une petite chance. Voilà, du coup, on est dans ce monde inconnu, et ça montre les limites de... Enfin, l'avantage et les limites d'une non-gouvernance planétaire imposée pour tout le monde, voilà. Donc... on en est
mais
là
qui est très 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 compliqué à mettre en place dans l'État.
On l'a fait pour les armes nucléaires, si tu veux, mais
ouais, c'est vrai que c'est quand même assez différent.
Super simple,
que...
ça marchait pas non plus super
qu'est-ce
bien.
Qu'est-ce que ça
après,
pourrait être comme
pas encore fait péter la gueule quelques dizaines.
Qu'est-ce que pourrait être une régulation de l'IA, ce serait quoi?
Voilà.
Bon, en tout cas, on va voir ce qui se passe.
Moi, j'ai lu les livres de science-fiction sur les futurs de l'humanité, s'ils ont réussi à passer le cadre de l'autodestruction de l'espèce, en cas d'évolution technologique.
Oui, bon, en tout cas, ça a été assez émotionnel tout ce truc.
Ouais, alors du coup, Antonio est triste. Du coup, il a pris un congé pour aller se relaxer au château de Versailles.
Bah oui, il pouvait pas parler de tout ça, là. T'es trop ému.
Trop d'émotion, là, dans le week-end.
Trop d'émotion.
Surtout qu'en plus, là, c'est le... Comment on appelle ça? C'est Thanksgiving, là. Donc, c'est le moment dans les boîtes où t'es un peu calme parce que tous les US arrêtent d'envoyer des emails.
C'est vrai que ça, c'est pas mal, ça.
Voilà, j'espère que cette petite fin techno-pessimiste vous aura plu et que vous nous écouterez la prochaine fois.
C'est pas pessimiste. En tout cas, de ma part, c'est équilibre. Je veux dire, je ne suis pas ni dans le cool, ni dans le...
Écoute, c'est la période du Beaujolais nouveau. C'est le moment d'avoir ce genre de débat dans les bars. C'est normal. Prochain épisode, l'interview avec Julien Viette sur les threads virtuels dans Vertex 4.5 et de manière générale Vertex 4.5, où on a été zoomé particulièrement sur les threads virtuels et leur usage dans Vertex. Voilà, et en espérant que ça vous a plu. Pas sûr qu'il y ait un épisode news en décembre, on verra. Et puis sinon, on vous retrouve l'année prochaine. Allez, bisous tout le monde. thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.